RFI, 7h30 à Paris, 6h30 à Ouagadougou et en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Nemo Ampis. À la une, elle dénonce une campagne de diabolisation et de dénigrement du gouvernement.
Les autorités burkinabé, après la propagation de nouvelles vidéos présentées comme des massacres de civils par des supplétifs de l'armée, objectif de cette campagne, selon Ouagadougou, déclencher des affrontements intercommunautaires. Au Mali, un groupe Touareg soutien de Bamako, victime d'une embuscade dans la région de Ménaka. Deux combattants du MSA tués par un engin explosif alors qu'ils assuraient la sécurisation d'un convoi de vivres. Mais pourquoi Kinshasa a-t-elle finalement décidé de négocier directement avec le groupe armé M23? C'était depuis le début du conflit avec les rebelles. La ligne rouge, réponse de la ministre congolaise des Affaires étrangères. Du sport et la technologie VAR, testée par des arbitres ivoiriens, c'est l'un des restes de la dernière CAN. Et puis le dossier de ce journal à Madagascar où l'usage du français peut parfois mener au conflit. Les plus jeunes ont tendance à glisser des mots pas toujours compris par les plus anciens.
Au Burkina Faso, de nouvelles vidéos de massacres sur les réseaux sociaux.
Et elles sont encore présentées comme des exécutions de civils par des supplétifs de l'armée, quelques jours seulement après l'annonce de l'ouverture d'une enquête concernant des messages haineux et des diffusions de fausses informations sur des bases communautaires. Bonjour Vincent Dublange.
Bonjour Nemo.
Hier, les autorités ont parlé de manipulation et dénoncé une campagne visant à décrédibiliser le pays.
Ces nouvelles vidéos montrent des civils escortés par des individus armés vers une destination inconnue. Les personnes âgés, les enfants qui n'arrivent pas à suivre sont menacés avec des armes blanches. D'autres vidéos montrent aussi des corps sans vie de civils. Elles sont présentées comme un massacre commis dans la commune de Gayeri, dans l'est du Faso. Dans un communiqué, le gouvernement dit déplorer la persistance d'individus mal intentionnés qui s'activeraient au montage de vidéos mensongères faisant croire à des massacres ethniques au Burkina Faso. Le gouvernement dénonce une manipulation qui s'inscrit, selon lui, dans le cadre d'une vaste campagne politico-médiatique de diabolisation et de dénigrement du pays. L'objectif, selon le porte-parole du gouvernement, serait de prêcher, je cite, la montée des communautarismes et de déclencher des affrontements intercommunautaires. Il assure également que le pays demeure fondamentalement attaché à la paix et au droit pour tous les Burkinabés de vivre libres et dignes sur la terre de leurs ancêtres. Fin de citation. Jeudi, le procureur Blaise Bazier, procureur du Faso, disait avoir ouvert une enquête en vue d'interpeller les auteurs de messages appelant à l'extermination de personnes appartenant à un groupe ethnique au motif que ces personnes seraient des terroristes. Il ne citait pas de groupe ethnique spécifique, mais les populations peules sont souvent visées au Faso par des amalgames.
Merci Vincent. J'ajoute qu'à la suite du communiqué du gouvernement, le procureur a lancé un appel à témoins pour aider les enquêteurs à interpeller les auteurs ou complices d'appels à la haine. Les personnes, profils, pages Facebook ou groupes sur messagerie qui publient ces discours haineux sont tous visés par cet appel à témoins.
Au Mali, deux combattants du MSA tués par un engin explosif.
Le MSA, Mouvement pour le Salut de l'Azawad, qui a agi aux côtés des FAMA, les forces armées. Cela s'est passé dans le nord du pays et les mouvements djihadistes sont accusés d'y avoir posé la mine, dont l'explosion a également blessé d'autres combattants. Plus de détails dans la correspondance régionale de Serge Daniel.
Selon le Mouvement pour le Salut de l'Azawad MSA, l'incident s'est déroulé entre les localités de Ansongo et de Ménaka dans le nord du Mali. Les deux combattants tués appartiennent à un mouvement armé qui soutient le pouvoir de Bamako. Ils assuraient aux côtés de l'armée malienne la sécurisation d'un convoi de vivres. D'après nos informations, les mines posées par de présumés djihadistes ont également blessé des éléments de l'escorte assurant la sécurité du convoi. Dans la région de Ménaka, le principal groupe djihadiste présent est l'État islamique qui contrôle plusieurs localités, recrutent parmi les populations locales et tentent jusqu'à présent sans succès de prendre le contrôle de la localité de Ménaka. En face, comme adversaire sur le terrain, il y a l'armée malienne, Wagner, le groupe paramilitaire russe et le MSA, le Mouvement pour le Salut de l'Azawad, composé d'autochtones de la région. Si ces derniers appuient sur le terrain les actions des troupes régulières un peu plus au nord-est du Mali, un important groupe armé, le Front de Libération de l'Azawad, FLA, se veut indépendantiste et combat l'armée régulière. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Retour également sur cette attaque djihadiste vendredi au Niger. 44 civils tués lors de l'assaut de la mosquée du village de Fambita dans la zone des trois frontières. Les autorités dénoncent un massacre d'une rare cruauté mené par l'État islamique au Sahel. Les auteurs seront traqués et les crimes ne resteront pas impunis, lance-t-on du côté de Niamey. Il est emprisonné depuis près d'un an dans une cellule du camp de Roux à Bangui en Centrafrique. Le chercheur belgo-portugais Joseph Figueira, ce spécialiste des peules et de la transhumance, eh bien cette semaine il a reçu la visite du nouvel ambassadeur de Belgique venu remettre ses lettres de créance au président Faustin Archange Touadéra. Ses proches et défenseurs continuent d'affirmer que le dossier est vide et espèrent obtenir un non-lieu. Pour cela, il demande une plus forte implication diplomatique de la part de Bruxelles, mais aussi de Lisbonne. François Mazet.
C'est en même temps que cinq autres ambassadeurs qu'Alain Leroy a remis ses lettres de créance mardi au président Touadéra. L'ambassadeur de Belgique, avec résidence à Yaoundé, s'est entretenu avec le ministre de la Justice, Arnaud Djoubaïa-Bazaine. Il a également rendu visite le lendemain à Joseph Figueira en prison et échangé avec ses avocats. Si le ministère belge des Affaires étrangères refuse de commenter la visite et les entretiens diplomatiques, un proche du dossier assure que le garde des Sceaux a renvoyé toute évolution de la situation à la prochaine session de la cour criminelle de Bangui, dont la date n'est pas encore connue. Mais les avocats de Joseph Figueira veulent un dénouement avant le procès. Ils ont déposé pour cela une demande de non-lieu en raison, selon eux, de la vacuité de la procédure. Ils s'étonnent par exemple que leur client n'ait été entendu que deux fois, alors qu'il fait l'objet de six lourds chefs d'inculpation. Un des interlocuteurs du nouvel ambassadeur l'a trouvé concerné et déterminé. Les proches de Joseph Figueira demande à la Belgique et au Portugal d'être plus actifs. Il s'étonne du silence de l'Union européenne, bailleur important de la Centrafrique, d'autant que Joseph Figueira a été victime de violences physiques lors de son arrestation par des mercenaires russes de Wagner à Zemio, dans le sud-est du pays, où il conduisait une mission de conseil pour une ONG américaine.
François Mazet.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le groupe armé M23 a annoncé hier que ses éléments se retiraient de Walikale-Centre.
Cette localité de la province du Nord Kivu, ils évoquent une volonté de favoriser un climat propice au dialogue. Des discussions directes qu'avaient acceptées cette semaine les autorités congolaises. Jusqu'ici, c'était pourtant la ligne rouge de Kinshasa. Alors comment expliquer ce revirement du président Félix Tshisekedi et sa volonté de négocier avec les rebelles soutenus par le Rwanda? On s'est déjà posé la question ces derniers temps. Cette fois, elle a été posée à Thérèse Kayikwamba, la chef de la diplomatie congolaise. Devant la presse, hier dans la capitale, elle a parlé d'un choix qui s'adapte à la réalité du terrain.
Nous sommes dans une logique justement de l'évolution du conflit et la République démocratique du Congo, à ce moment précis, a estimé qu'il était plus opportun pour nous et surtout pour nos populations d'engager cette discussion directe avec le M23 si cela aurait pour répercussion justement une cessation plus vite possible aux hostilités et surtout aux souffrances à nos populations civiles. Malgré cette évolution, la priorité a toujours été la même et surtout pour le président de la République, c'est de préserver les vies des Congolais et des Congolaises et c'est dans cette logique aussi que nous avons donné notre feu vert pour qu'il y ait un engagement au niveau des équipes qui ont été envoyées pour participer à une rencontre directe avec le M23. Cela ne veut pas dire que certains principes ne demeurent pas et ne restent pas inébranlables. La rencontre de Doha n'est pas venue se supplanter aux efforts qui étaient en cours, mais plutôt s'inscrire dans une logique d'accompagnement à ces efforts. La voie des solutions africaines, nous continuons à la privilégier. Évidemment que nous ne voulons pas que sous le prétexte d'une solution africaine, des questions parfois épineuses où des vérités ne soient pas dites.
Thérèse Kayikwamba, la chef de la diplomatie congolaise, au micro de notre correspondant à Kinshasa, Pascal Moulégua. Un mot de sport, de football dans ce journal et de cette nouvelle technologie qui a révolutionné le ballon rond ces dernières années, l'assistance vidéo à l'arbitrage, la VAR. Eh bien, elle est en ce moment expérimentée en Côte d'Ivoire. Des arbitres ont pu la tester jeudi lors du tout premier match test. C'était entre une formation de Ligue 1 et une formation de Ligue 2 au stade Champroux d'Abidjan, sous les yeux attentifs de responsables de la FIFA. Le reportage de Youen Gourlet.
Vous venez.
Sur cette action, Stéphane Naï vérifie une potentielle faute. Après avoir zoomé sur les pieds des joueurs, il est formel.
À peine de touche. Rien.
Dans le camion vidéo, l'arbitre VAR est accompagné d'un assistant et d'un technicien pour scruter la douzaine d'écrans à sa disposition. L'arbitre zoome, dézoome, revient en arrière, revisionne au ralenti les actions litigieuses grâce au matériel qui avait été utilisé lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Les arbitres ont pour mission de vérifier les quatre piliers de la vidéo. S'il y a but, pénalty, carton rouge et si le carton a été donné au bon joueur. Pour Stéphane Naï, ce tout premier match est un moment important pour le foot ivoirien.
Ça apporte un souffle nouveau à l'arbitrage ivoirien parce que ça nous aide dans les prises de décision. C'est sûr que ça va clairement impacter le championnat.
Sur le terrain, le Stella Club d'Adjamé, club de Ligue 1, et la Estanda, club de Ligue 2, s'affrontent en amical. Si durant la première période, Stéphane Naï aura eu peu d'interventions à réaliser, la deuxième période sera riche en rebondissements, quelques litiges, un pénalty obtenu par le Stella Club d'Adjamé grâce à la VAR. Abou Koulibaly, l'arbitre de la rencontre, a apprécié l'aide de la vidéo.
Aujourd'hui, c'est un outil qui arrive chez nous. On ne peut que l'accueillir avec vraiment beaucoup de joie. On espère que ça va diminuer au maximum les contestations.
Après la formation de 30 arbitres et 3 techniciens en début d'année, puis cette expérimentation grandeur nature, la FIFA qui supervisait la rencontre mais qui n'a pas souhaité s'exprimer, doit maintenant valider ou non la technologie pour le championnat ivoirien. Une validation espérée ces prochaines semaines par le corps arbitral. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Et puis, Nemo, le dossier de ce journal consacré à la Journée internationale de la langue maternelle.
Oui, ce dimanche marque également la fin de la Semaine internationale de la francophonie. C'était l'occasion de mettre en avant la langue française, mais également de penser la façon dont elle transforme d'autres langues parlées dans l'espace francophone. Illustration ce dimanche à Madagascar, où les jeunes communiquent de moins en moins dans le malgache de leurs parents ou de leurs grands-parents. En cause, notamment, l'usage du français comme deuxième langue officielle et première langue d'enseignement depuis le primaire. Résultat, les étudiants sont parfois tiraillés entre l'usage de leur langue maternelle ou du français. Reportage de Pauline Le Troquier à Ankatse, grande université publique de la capitale.
Sur l'esplanade du campus, un groupe d'étudiants entame une partie de Fanourne, un jeu de stratégie typique du pays. Au milieu de la conversation, entamée naturellement en malgache, quelques mots de français. Ce langage contemporain, né et diffusé en ville, n'est ni accessible à tous, ni du goût des aînés. Nambine, étudiant de 24 ans.
Ça peut créer des conflits. Par exemple, quand je place des mots en français, il arrive que ma mère se mette en colère car elle ne comprend pas ce que je dis. Et en plus, elle dit que je suis vantard.
On nous prend pour des idiots.
Pour fille, 19 ans, la maîtrise du français est un marqueur social important, source de pression pour sa génération.
Ils se prennent pour des leaders quand ils parlent français et quand on parle malgache, ils disent qu'ils ne sortent pas de leur zone de communauté, tout ça.
Le français résonne pourtant peu, en dehors des salles de classe, dans l'intimité des foyers. Cette place unique qui lui est réservée à l'école pose question au professeur Jeannot-Fils Ranaï-Vousson. Pour cet enseignant de la filière malgache à Ankatse, le système crée des déracinés linguistiques.
On enseigne dans une langue que les gens ne maîtrisent plus. Donc c'est une question d'efficacité. Que ce soit dans les efforts de développement, dans l'enseignement, il faut qu'on se parle avec la langue que tout le monde comprend, le malgache en fait.
Au-delà d'un impératif fonctionnel, une élite intellectuelle tananarivienne milite pour redonner toute sa place au malgache, qui reste selon elle un marqueur de souveraineté nationale. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Mais alors quel avenir pour la langue de Molière sur la Grande Île? Je vous propose d'écouter Tani Mohamed Swahili, le ministre français délégué chargé de la francophonie et des partenaires internationaux. Selon lui, ce partage et ce mélange entre les langues est une force et le français doit continuer à avoir toute sa place aux côtés des langues internationales. On l'écoute.
Le français coexiste d'ores et déjà parfaitement avec le malgache. Par exemple, dans les journaux télévisés à Madagascar, il y a souvent des traductions du malgache vers le français, du français vers le malgache. Et ça, c'est vraiment un enrichissement. Et il ne faut surtout pas couper avec ça. Au contraire, les deux langues se renforcent et s'enrichissent les unes les autres. Le français, au sein de l'espace francophone, n'est en aucune manière en concurrence avec les autres langues, et ici, en l'occurrence, le malgache. La francophonie promeut le multilinguisme. Ça fait partie des valeurs qui font la force de la francophonie.
Tani Mohamed Swahili, ministre français délégué chargé de la francophonie et des partenaires internationaux. Il était avec Pauline Le Troquier qui signe le dossier de ce journal depuis Antananarive.
Merci Nemo Ampi. À tout à l'heure.